et votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1. Nathalie Lévy, c'est l'heure de zoomer et décrypter toutes les dernières infos du jour avec les grandes voix ce soir depuis leur salon. Ève Roger, chef du service Société d'Europe 1, Emmanuel Duteil, chef du service Économie d'Europe 1, Mickaël Darmon, éditorialiste politique, et depuis New York ce soir notre correspondant aux États-Unis, Xavier Yvon.
Bonsoir les grandes voix, bonsoir l'Amérique,
bonsoir
Xavier Yvon.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous, bonsoir l'Amérique.
Bienvenue évidemment à tous. On va évidemment vous rejoindre aux États-Unis à New York dans un instant, Xavier Yvon. Je voudrais simplement donner la parole pour commencer à vous, Ève Roger, parce que sans doute beaucoup de parents aussi nous écoutent ce soir, et même des enfants, et c'est probablement ce qu'on attendait aussi beaucoup ces derniers jours, c'est évidemment Jean-Michel Blanquer devant l'Assemblée nationale, et donc ce plan de retour à l'école pour les petits et les plus grands aussi. On en sait plus désormais, et tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne, c'est évident, et ce ne sera pas une rentrée pour tous le 11 mai, c'est évident aussi.
Alors avant de vous parler sur le fond, je voulais faire un peu de Mickaël Darmon, et je voulais juste dire qu'on a tous été un peu pris de court, et les syndicats aussi, les journalistes. C'est vrai qu'on s'attendait pas à ce qu'il dévoile comme ça tout de go son plan, alors qu'il doit le présenter officiellement demain, d'abord au Premier ministre. Alors c'est vrai que c'est peut-être, alors ça Mickaël me contredira peut-être, mais c'est peut-être il a rendu un peu un chien de sa chienne au président, parce que le président l'avait alerté très peu de temps avant que la rentrée des scolaires se ferait à partir du 11 mai, donc on se demande si c'était pas un peu une réplique.
Œil pour œil, dent pour dent.
Voilà, c'est ça. Il nous a tous un peu pris de court. Alors, c'est vrai que sur le fond, vous voyez la complexité du dispositif. Ah. C'est-à-dire que le temps que Victor Dolan nous raconte qui fera sa rentrée quand, je pense qu'on aurait pu finir le journal en donnant tous ces détails-là. Donc, c'est vrai que c'est un mécano extrêmement complexe. Mais derrière ce mécano complexe, on voit une idée forte qui est simplement, et il le dit, il ne s'engage pas, c'est de ramener à l'école tous les enfants qui sont en train de décrocher. Donc, vous aurez, il le dit, il y a qu'à peu près 4% d'élèves, et c'est vrai que les enfants des milieux favorisés, on peut imaginer qu'ils ne reviendront peut-être pas parce qu'ils n'en ont pas vraiment besoin, parce qu'ils sont accompagnés à la maison. Mais c'est vrai que l'objectif, c'est de ramener ces enfants qui sont en train de décrocher à l'école. Et c'est vrai que là, à l'école, il y aura quatre possibilités. Vous avez les quatre scénarios où vous serez à l'école
déjà,
avec l'institut, vous serez avec ou alors vous ferez des études, vous serez en études, ou alors vous serez à la maison en enseignement à distance, où vous ferez du sport, etc. Donc ça veut dire que
avec un vrai casse-tête
qui est vraiment pensé. Alors effectivement. Alors pourquoi on fait d'abord rentrer les tout petits, puis après, enfin je vais pas vous refaire le, parce qu'on terminera la demi-heure comme ça. Mais en tout cas, je pense que c'est un système qui est extrêmement complexe et qui les profs sont partagés, c'est-à-dire que à la fois ils considèrent qu'ils sont à nouveau les cobayes, et parce que on ne sait pas les risques sanitaires. Vous en avez parlé tout à l'heure avec Jean-François Delfraissy. Il y a un peu de risques sanitaires, et on fait prendre des risques sanitaires dans les familles justement les plus défavorisées. Donc ça veut dire que ça double l'inégalité. Alors il y a une inégalité sanitaire, mais on essaie de rétablir une égalité sociale.
Ah oui, c'est ça. Avec, vous l'avez peut-être entendu, le professeur Delfraissy qui nous disait qu'il n'a pas de réponse encore à nous apporter pour les enfants des soignants qui ont pu étudier là depuis le début du confinement. Où seront-ils ? Sont-ils mixés avec les enfants fraîchement déconfinés ? La question reste entière. Xavier Yvon, je viens vous voir évidemment parce que Donald Trump a encore fait des siennes. Il a l'occasion, là, grâce entre guillemets, l'occasion grâce ou pas au coronavirus, de stopper toute l'immigration.
Oui, alors c'était très surprenant, c'est un tweet qu'il a envoyé tard hier soir, pour nous il était 22-23 heures, comme il le fait régulièrement, il annonce des choses qui ne sont pas annoncées par son gouvernement, donc là, dans ce tweet, il dit « je vais interdire toute l'immigration aux États-Unis à cause du virus, donc pour protéger la population
l'excuse est belle.
Du virus ». Voilà, mais aussi pour protéger les travailleurs américains, puisque je vous rappelle qu'il y a 22 millions de chômeurs depuis un mois aux États-Unis à cause de cette pandémie et de la crise économique qui s'ensuit. Évidemment, Trump a envoyé son tweet, tout le monde allait se coucher et on n'a toujours pas de détails. Il est midi 43 ici sur la côte Est et on ne sait pas ce que veut dire le tweet de Donald Trump. Est-ce que toute l'immigration sera interdite ? Il y a des centaines de milliers de gens qui émigrent aux États-Unis chaque année avec des visas très différents, mais ça peut être pour travailler dans la tech, dans la Silicon Valley, des étudiants, etc. Est-ce que tout ça s'arrête ? On ne sait pas. Est-ce qu'il y a certaines catégories qui seront exemptées ? On ne sait pas. On ne sait même pas quelle est l'autorité légale de Donald Trump pour arrêter toute l'immigration. Vous voyez, il y a beaucoup de questions. Et puis d'ailleurs, en plus, c'est un effet d'annonce parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui rentre aux États-Unis. Les frontières sont fermées. Les frontières au nord, au Canada, avec le Canada et au sud, avec le Mexique, sont fermées. Et si vous demandez un visa pour les États-Unis en ce moment, vous le savez, il n'y a rien qui marche. Les demandes ne sont pas prises, elles ne sont pas examinées. Donc aujourd'hui, il n'y a personne qui rentre aux États-Unis. Mais Il reste donc beaucoup de questions. En fait, il y a un énorme effet d'annonce et c'était uniquement ça l'effet escompté. C'est je fais un effet d'annonce et je remets l'immigration sur la table parce que qu'est-ce qui se passe dans 6 mois? Il y a l'élection présidentielle.
Exactement, la présidentielle et évidemment Donald Trump ne pense qu'à ça. Emmanuel Dutheil, le pétrole, on en a parlé hier en chute libre, bien évidemment, avec des chiffres qui donnent encore le tournis. Et puis, il s'est passé plein de choses, une espèce de soirée un peu folle comme ça.
Oui, effectivement, quand on s'est parlé là aux alentours de 18h43 hier soir, le pétrole était aux alentours de 10 dollars encore. Il a terminé à moins 37 dollars. Vous dites, il a bu un coup, il a bu une bière tout seul avant les grandes voix. Non, non, non. Le pétrole a bien terminé en territoire négatif. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que hier soir, à New York, des investisseurs ont préféré payer pour vendre leur baril de pétrole plutôt que le garder. Alors déjà, il faut un tout petit peu expliquer. On parle de quel pétrole? On parle de ce qu'on appelle le WTI, qui est le pétrole américain classique, mais on parle du pétrole vendu là pour le compte du mois de mai. Et ça change tout. Pourquoi? Parce que le gros problème du pétrole, c'est qu'aujourd'hui, il y en a partout et on ne sait pas en quoi en faire. Et surtout, et c'est ça le plus intéressant, et c'est ce qui s'est passé hier, on ne sait pas où le stocker. Les hangars, les oléoducs, les bateaux pétroliers, enfin bon, tout ce que vous voulez, ils ont du pétrole à ras-bord et on ne peut plus en mettre à l'intérieur. Et c'est la raison pour laquelle hier, les investisseurs ont préféré se délester de leur pétrole plutôt que de devoir le garder. Ça ne veut pas dire, bien évidemment, pour ceux qui ont encore besoin de temps en temps de faire leur plein et d'utiliser leur voiture, qu'on va vous donner de l'argent pour aller faire le plein. On n'en est quand même pas là. Déjà en France, on vous en prend avec les taxes, donc on va quand même pas vous en donner. Mais surtout, le pétrole reste encore aujourd'hui au niveau mondial, allez, un tout petit 15-20 euros si on regarde un petit peu la moyenne, ce qui sont bien évidemment des chiffres extrêmement bas. Je vous donnais hier le plus haut du pétrole, c'était à l'été 2008. Je sais pas si vous vous souvenez de ce que j'ai dit hier soir, c'était 147 dollars le plus haut. Donc là, on est bien évidemment sur des niveaux totalement records. Et il y a ce problème du stockage et il y a cet énorme problème de la demande. Les usines ne tournent pas, les avions ne tournent pas. Et comme disait Donald Trump en début de matinée pour lui, les voitures ne roulent pas, donc on n'a pas besoin de pétrole. Mais Donald Trump a dit, on va sauver notre industrie, un plan d'aide est donc à l'étude.
Ouais. Je reviens tout à l'heure, évidemment, Michael Darmon est avec nous également. Bonsoir, Michael.
Bonsoir.
Alors, c'était une demande, hein, ça montait. Alors, ça y est, l'Assemblée va assouplir les règles de présence des députés dans l'hémicycle, hein, parce qu'il va falloir à un moment, là aussi, reprendre le cours des choses, entre guillemets, et puis ça grondait.
Tout à fait. Et tout d'abord, je voudrais effectivement dire à Eve Roger qu'elle a bien regardé Baron Noir ou voire bien écouté les grandes voix. Au choix, elle décidera. Mais c'était exactement donc le bon décryptage. Par ailleurs, et d'ailleurs pour continuer dans la même veine, effectivement, c'est aujourd'hui a été annoncé la fin de la levée, je dirais, du couvre-feu parlementaire qui était imposé donc aux députés. Ça a tout à commencer en fait par d'abord une offensive un peu solitaire, il faut le dire, de la figure de du pôle gauche de La République En Marche, la députée Émilie Cariou. Ça a été ensuite repris par donc Xavier Bertrand, qui lui, d'ailleurs sur Europe 1, a dénoncé également ce verrouillage de l'Assemblée. Puis Damien Abad, le patron donc des députés LR, qui est passé par là. Il n'y avait pas trop de choses à dire en ce moment. Il a foncé donc sur cette occasion. Il a organisé 35 députés LR, qui ensuite ont fait savoir qu'ils voulaient absolument un assouplissement donc de ces règles. Là, la patronne du groupe PS, Valérie Rabault, s'est jointe également donc aujourd'hui à ce concert. Et voilà comment, au fond, peut-être une première forme d'unité nationale a fait en sorte que, eh bien, l'Assemblée va reprendre effectivement un hémicycle un peu plus rempli, 75 députés, 40 pour le groupe majoritaire, et surtout également au passage le débat sur le traçage numérique qui aura lieu donc le 28 avril à l'Assemblée, le 29 au Sénat, eh bien, sera suivi d'un vote. Alors que ça n'était pas le cas au début, et que même lorsque le patron du groupe La République En Marche, donc le gendre, on lui a posé la question et avait balayé ça d'un revers de la main en disant de toute façon voter c'est pas utile, et voilà, le lendemain il a été désavoué.
Voilà, et c'est comme ça que ça se passe parfois. On va revenir vous
c'est,
voir
oui, c'est
aussi.
Cruel la politique, oui.
Bah, il se paraît. Eve Roger, j'en parlais également avec le professeur Delfrécy, Jean-François Delfrécy, tout à l'heure, parce que l'Institut Pasteur nous a donné des chiffres, nous a livré des chiffres. 5,7% des Français infectés d'ici au 11 mai, ce qui représente finalement très, très, très peu d'immunité. Soyons clairs, on est très loin des 10, 15% de la population infectée. Même là, de toute façon, ce serait encore bien trop peu.
Oui, alors ça, vous en avez déjà parlé avec lui. Je n'essaierai pas d'aller sur le terrain de Jean-François Delfrécy. Mais ce qui me frappe, moi, c'est que dans les régions très infectées, comme le Grand Est ou l'Île-de-France, les chiffres ne sont pas nettement plus hauts. On est autour de 12%. Donc c'est vrai que ça me semble étonnant. Et là, je vais vous parler plutôt d'un point de vue personnel. C'est-à-dire qu'on a le sentiment quand même qu'autour de nous, on connaît beaucoup de gens qui ont été malades, qu'on connaît beaucoup de cas, que c'est quelque chose qui est très répandu. Puis en réalité, quand on regarde ces chiffres-là, que ce soit l'étude de modélisation de Pasteur, ou les données dont parlait Jean-François Delfrécy, ben finalement, ça ne fait pas tant de monde que ça. Et c'est vrai qu'à la question à laquelle il n'a pas pu vous répondre, et c'est encore une question qui nous semble très importante, c'est-à-dire à quelle vitesse le virus va circuler au moment du déconfinement. Est-ce qu'on est capable de justement d'empêcher, avec toutes les mesures barrières, avec toutes les précautions que nous tous allons prendre, d'empêcher le virus de reprendre? Et c'est vrai que cette deuxième vague, moi je trouve qu'elle elle s'avance vers nous. Ouais, et oui. J'ai l'impression qu'on a beaucoup d'inquiétudes. Alors c'est vrai que vous avez entendu comme moi Jean-François Delfrécy dire oui, mais ça risque d'être plutôt à l'automne. Mais moi je trouve que rien qu'au mois de mai, alors souhaitons que le ciel et le soleil soit avec nous, puisque ça peut peut-être ralentir
c'est ce qu'il nous disait.
Cette
peut-être
circulation.
Avec,
voilà.
Avec la chaleur, l'été, etc. Ouais, mais voilà. Vous avez vu aussi leur avis, hein, l'avis qui sera donné là, rendu public dans les prochains jours, ne concerne pas l'été. Hein. On s'arrête à juin. Voilà,
vous ne partirez pas en vacances, Nathalie.
Voilà. Non, mais je pense que ça parle à pas mal de Français. Retournons voir maintenant Xavier Yvon du côté des États-Unis, bien sûr, à New York, même très précisément. Qu'est-ce qu'on fait chez vous? On ouvre, on n'ouvre pas, on garde des états fermés, certains plus au sud que d'autres, l'assouplissement des règles, c'est vraiment, il y a vraiment deux poids, deux mesures, hein. Il y a vraiment une graduation, il y a vraiment des disparités énormes.
Oui, bah c'est le fédéralisme américain. Et comme en plus on a un président qui ne prend pas le lead, comme on dit ici, sur ce qu'il faut faire et qui donne que des recommandations, qui envoie surtout des messages contradictoires, eh bien les États font un peu ce qu'ils veulent. Et c'est vrai, nous avons aujourd'hui trois États du sud des États-Unis, la Géorgie, la Caroline du Sud et Tennessee, qui ont annoncé qu'ils allaient assouplir les mesures de, pas vraiment de confinement, mais en tout cas de distanciation sociale et de fermeture, et qu'ils allaient commencer à rouvrir. Et notamment, il y a la Géorgie, qui est un État important dans le sud, qui à partir de vendredi va rouvrir, alors j'ai la liste ici, les salles de sport, les salons de massage, les bowling et aussi les salons pour faire les ongles. Et tout en c'est le gouverneur qui demande ça, tout en respectant les distanciations sociales. Je ne sais pas comment on fait dans un salon de massage pour respecter les 2 mètres qu'on demande ici aux États-Unis. Il faut qu'il nous explique. Mais évidemment, ça crée la polémique avec d'autres États, et puis même à l'intérieur de la Géorgie, parce qu'il y a des grandes villes comme Atlanta, qui est donc la plus grande ville de Géorgie, qui elle est extrêmement touchée par l'épidémie, qui a vu le taux de contamination augmenter de 40% la semaine dernière. Donc la maire de la ville a dit, mais moi, il est hors de question que j'obéisse au gouverneur. Je demande à ma population de m'écouter moi et de ne pas écouter le gouverneur. Donc, vous voyez la pagaille qu'il y a et en fond de tout ça, c'est évidemment un problème très politique. Le gouverneur de Géorgie et les gouverneurs des États du Sud, c'est des conservateurs, c'est des républicains, c'est des pro-Trump, c'est des pro-business et eux, leurs États sont un peu moins touchés. Alors ils disent oui, certes, nos cas vont peut-être augmenter si on rouvre, mais il vaut mieux sauver l'économie et avoir un peu plus de malades. C'est ce que dit aussi Trump et donc ils vont dans ce sens-là. Et vous avez... Voilà, et vous avez des États beaucoup plus touchés, beaucoup plus denses, comme les deux grands États de la côte Est, donc New York et la Californie, qui eux disent hors de question de rouvrir maintenant, c'est bien trop tôt, même si à New York, là où je suis, la courbe commence doucement à baisser. Et vous voyez, en fond de ça, c'est les deux Amériques qui s'affrontent. L'Amérique conservatrice, trumpiste, et l'Amérique progressiste, qui est plus touchée parce qu'elle vit dans des villes plus grandes et plus denses.
Évidemment. Emmanuel Dutheil, justement, parlons économie avec vous. Une entreprise française, Technicolor, qui aujourd'hui invite ses salariés à réduire volontairement leur salaire. Le groupe est en difficulté d'ailleurs.
Oui, de toute façon, c'est la loi. On n'a pas le droit de réduire le salaire d'un collaborateur comme ça. Donc, ils sont obligés de le faire de façon volontaire, ce qui limite toute l'utilisation du mot volontaire. Qu'est-ce qui se passe, effectivement? Alors, pour nos auditeurs les plus anciens, tout le monde se souvient de Technicolor, qui a été un grand groupe technologique il y a de cela quelques années, mais qui, malgré tout, depuis des années, enchaîne les plans de restructuration et qui s'est recentré aujourd'hui sur les effets spéciaux, notamment pour le cinéma. C'est un groupe qui est très impacté, comme tout le monde, hein, par la crise actuelle, mais c'est encore plus dur posture, là on le voit très bien, pour les groupes qui étaient déjà en mauvaise posture avant. Donc ils ont pris des mesures pour essayer de limiter l'impact, avec notamment une baisse du salaire du patron, 25% sur 3 mois, une baisse des membres du COMEX, alors c'est-à-dire on va dire les grands dirigeants de l'entreprise, de 20%. Et derrière, il a effectivement demandé à ses équipes, sur la base, comme vous le disiez très bien Nathalie, du volontariat, d'en faire de même à la... en fonction de la capacité que les uns et les autres pourraient avoir à faire. Alors bien évidemment, ça passe mal, parce que bon, bah, tout le monde ne gagne pas un salaire convenable au sein de cette entreprise. Et puis ça passe mal aussi, puisque certains en interne disent « Bah oui, mais moi, si j'accepte pas de faire un petit effort, ouais. est-ce que je vais pas être mal vu derrière ? Est-ce que je vais pas me retrouver licencié si jamais il y a un plan de licenciement qui doit arriver ?» Donc toi, on voit bien que ça pose un souci. On voit surtout que de plus en plus de groupes sont en train de se poser des questions. On avait également ce matin sur l'antenne d'Europe 1 le patron de Safran. Là, on parle de l'un des plus grands groupes industriels français qui fait des moteurs d'avions, qui est très présent dans l'aéronautique, dans l'industrie, etc., etc. Qu'est-ce que le dit le patron ? Dis-moi, le problème, c'est pas du tout d'organiser la distanciation au sein de mes usines. Je sais faire, je suis un grand groupe industriel, c'est facile à faire. La grande difficulté, c'est de savoir ce que je vais leur faire faire, moi, mes milliers de salariés, quand ça va revenir, puisque l'activité aéronautique est complètement à l'arrêt, et sûrement pendant plusieurs années. Donc, qu'est-ce que je vais leur faire faire ? Et ils nous disaient ce matin que on ne peut pas aujourd'hui éluder la possibilité de devoir, malheureusement, comme ils disaient, licencier à la sortie de cette crise. Donc, c'est vrai que là, on est en train de voir à quel point la sortie sanitaire va peut-être ouvrir sur une crise économique cataclysmique, au point qu'on entend plusieurs voix aujourd'hui dire du côté du monde économique, il faut peut-être ouvrir un peu plus les vannes, quoi. Il faut peut-être nous aider à rouvrir pour qu'on limite au maximum ce qui est encore possible, cette crise économique.
Ouais. Alors, on va bientôt conclure, parce que ce soir, on est un peu plus court, les amis, mais juste une question très rapide à Xavier Yvon sur New York, et puis je voudrais vous entendre aussi sur les premiers résultats à l'étranger d'hydroxychloroquine. Xavier Yvon, juste un petit zoom rapide sur New York aujourd'hui. Comment ça se passe en termes d'hospitalisation, de mortalité, bien sûr, très vite?
Alors, on baisse toujours, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, comme l'idée du gouverneur de New York. Les hospitalisations, les morts sont à peu près au même niveau, environ 500. On ne parle pas encore de réouverture, mais je vois de plus en plus de monde dans la rue. Alors, avec des masques, tout le monde a des masques. C'est désormais obligatoire pour rentrer dans les commerces, dans tous les lieux fermés. Oui, obligatoire. Si on ne peut pas tenir les 2 mètres de distance, il faut un masque. Et donc, effectivement, tout le monde a un masque aujourd'hui dans la rue de New York. Je voulais juste rajouter une chose sur ce qu'avait dit Ève Roger tout à l'heure sur le taux de contamination, parce qu'il y a une étude intéressante ici aux États-Unis, dans le comté de Los Angeles, qui montre qu'il y aurait 50 fois plus de gens contaminés que les chiffres qu'on a, ce qui montre qu'on a une très mauvaise idée du taux de pénétration du virus dans la population. Et j'ai discuté avec un médecin de Brooklyn il y a pas très longtemps, qui me disait que lui, les gens qui voyaient arriver dans son hôpital, qui n'étaient pas là pour le Covid, qui étaient là pour un accident de la route ou autre chose, quand ils passaient un scanner, ils voyaient dans les poumons du Covid, et disaient tout le monde qui vient est infecté.
Alors Xavier Yvon, vous réglerez avec Ève Roger vos petites histoires, parce que du coup je ne peux pas malheureusement vous interroger, Ève, sur la suite du programme. Mais les amis, on vous retrouve demain. Xavier Yvon, merci à vous depuis New York. Les grandes voix, vous revenez demain, évidemment. On aura bien sûr du temps pour vous laisser développer. Merci à vous.